9h21, notre invité nous propose, comme à chaque année, la nouvelle de l'automobile. Cette fois-ci, c'est 2020. Benoît Charrette, bonjour.
Salut, Paul.
Je vais juste commencer l'entrevue par la remarque que tu m'as faite en entrant en disant « Est-ce que je leur parle des augmentations du prix des voitures pour les faire pleurer?
» Pour rester dans le thème de la journée.
C'est un peu ça. Est-ce que quoi, il y a une augmentation importante des prix?
Ben, en fait, on regarde... Moi, j'ai constaté cette année dans les véhicules que j'ai essayés, je dois faire des efforts pour trouver des véhicules sous la barre des 30 000 $. Le prix moyen augmente. Évidemment, la technologie aussi augmente dans les véhicules, mais la technologie a un prix. Et ce prix-là est inclus et on se rend de plus en plus compte. D'où l'idée cette année d'inclure une section d'occasion dans le livre. Parce que moi, il y a de plus en plus de gens qui me disent... C'est beau le neuf, là, mais j'ai pas un moyen. J'ai juste pas un moyen d'aller là. Ce qui m'intéresse...
C'est surtout ce qui, moi, me frappe, c'est le nombre de paiements.
Oui.
C'est-à-dire que là, t'achètes un véhicule, là, puis c'est pas un véhicule qui... En fait, tu peux le garder, là, mais...
Faut que tu l'aimes beaucoup, hein?
6 ans.
Ah, 7 ans, 8 ans. Oui. Parce que, puis souvent, moi, ce que je dis aux gens, j'ai dit, écoutez, parce que les gens, malheureusement, achètent un paiement. Donc, les gens disent au concessionnaire, moi, j'ai 300 piastres par mois. Je peux pas vraiment aller plus loin que ça. Parfait. On va te mettre ça à 300 piastres, mais tu l'as pour 80 mois. Tu l'as pour 96 mois. Faut pas oublier qu'en général, après 3-4 ans, la garantie de l'auto est finie, là. Et là, ben, tout ce qui dépasse ça ou le kilométrage que vous avez fait est à vos frais. Et certains gens vont... garder l'auto le temps du paiement, le temps du contrat. Mais 8 ans, là, faut aimer son auto pour la garder 8 ans. Là.
Ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait.
Voilà, exactement. Fait que pour bien des gens, ça fait souvent plus de sens d'aller dans l'occasion, d'acheter quelques années, quelque chose qui est moins cher, et de le payer sur moins longtemps aussi.
Bon, de façon générale, quand on regarde le portrait, on sait qu'il y a plus de véhicules à chaque année.
Oui.
On sait que les SUV ont encore la tendance, les camions, légers, les SUV.
Pour le moment, c'est une mode qui ne se démode pas, appelons-la comme ça. On va avoir en 2020 presque 70 % des véhicules vendus qui vont être des utilitaires. Il va rester 30 % aux autos.
Ce qui amène des fabricants à renoncer.
Ben, on l'a vu cette année.
C'est Ford, je pense.
Ford, GM a enlevé là dans les quelques derniers mois la Cadillac CT6, la XTS, le Cruze, Chevrolet Cruze est parti, la Volt est partie, toutes des voitures. On dit qu'on va les ramener sous une forme qui est plus tendance. Il faut lire entre les lignes sous forme d'utilitaire quelconque. On le voit là, c'est un marché qui est encore très en demande. Et on commence à voir des véhicules électriques qui arrivent sous des formes plus familiales. On parle du Kona cette année, on parle du Niro, du Kia Soul, qui sont tous des véhicules à orientation plus familiale, qui sont offerts en modèle 100% électrique.
OK. Justement, ce matin, c'est le Journal de Montréal qui a des chiffres qui dit depuis que le budget fédéral a été présenté, dans les 3 derniers mois, c'est une augmentation importante du nombre de véhicules électriques. Je comprends que quand on donne une subvention, puis qu'on ajoute à celle du Québec... C'est une bonne motivation. Mais est-ce que tu penses que là, c'est une tendance qui est à la fois chez les fabricants et à la fois chez le consommateur qui est ancrée?
L'intérêt est là, c'est clair. Et au Québec, plus qu'ailleurs au Canada, c'est encore plus vrai. Parce que bon, ici, on a l'avantage de produire une électricité qui est propre. Donc, d'acheter un véhicule électrique ici, l'équation est très bonne. On le voit par les courriels qu'on reçoit, par la demande des gens vis-à-vis des concessionnaires aussi, qui est en hausse. Bon, évidemment, le 13 000 $ aide beaucoup. Pour prendre l'exemple de nos voisins ontariens, quand on a coupé la subvention de 14 000 $ l'an dernier qu'il y avait aux véhicules électriques, les ventes ont chuté de 65 %. Fait qu'on voit que ça tient encore pas mal à la subvention. Mais là où on constate que malgré le lâcher prise un peu du gouvernement, je parle de la Norvège, qui est l'exemple conçu partout. La Norvège est le premier pays où on a pratiquement atteint 50 % des ventes de véhicules électriques. C'est beaucoup.
Ouais.
Mais là, on a commencé à retirer certains privilèges parce que là, évidemment, le gouvernement subventionnait lourdement tout ce secteur-là. On donnait jusqu'à 26 000 $ de rabais sur les véhicules, stationnement gratuit en ville, on payait pas sur les autoroutes payante. Bon, il y avait une série d'avantages. Là, le gouvernement, ça lui coûtait quelques milliards par année, a décidé de dire, bon, on va. Mais malgré ça, je dirais que le facteur catalyseur a été assez important pour que là, on dirait que la machine est partie.
Okay.
Puis les gens continuent d'acheter malgré le fait que c'est un peu moins intéressant qu'avant.
Là, je ne veux pas un chiffre précis, mais il y a combien de modèles de voitures électriques en gros disponibles? Quand je, si je dis, moi, je veux passer à l'électrique... Ouais, là,
on est à peu près à 35, là, Paul. Autour 35? De 35. Et cette variété-là, à partir de 2020, va continuer d'augmenter. Là. C'est parce que la plupart des constructeurs s'étaient donné comme horizon entre 2020 et 2022 pour amener une quantité plus importante de véhicules électriques sur le marché. Vois-tu, je m'en vais dans deux semaines essayer la première Mazda électrique qu'ils vont amener sur le marché. On a peu de détails. On va nous dire là-bas de quoi ça a l'air. Est-ce que ça a été développé par Mazda? Est-ce qu'on s'est associé à Toyota, qui a déjà une bonne expertise dans le milieu? On va voir ça là-bas. On a déjà roulé des modèles Audi, Mercedes.
Qu'est-ce que ça a l'air, ces modèles-là?
Écoute, Paul, c'est des modèles intéressants. Évidemment, on parle de modèles haut de gamme. Quand tu parles de modèles
allemands, c'est sûr, là.
Mais la technologie est bonne. Là, on commence à combler les manques qu'il y avait des véhicules électriques. Recul, il y a 5 ans, les modèles électriques donnaient à peu près 150 à 200 km d'autonomie. Tu avais Tesla qui était à part, là, qui était déjà au-dessus de 300 à l'époque. Et depuis 3-4 ans, là, on est plutôt autour de 400 dans la norme. Donc, on a pratiquement doublé, puis on annonce qu'on va encore doubler dans les 3 prochaines années. Donc, au niveau de l'autonomie, moi, je dirais que c'est un obstacle qui est à peu près abattu ou qui va l'être bientôt. L'autre, le problème, c'était la recharge. Bon, là, on développe des recharges de plus en plus rapides. On va rentrer du 800 watts bientôt dans les voitures. Porsche va le faire avec la Taycan dans quelques mois. Et le dernier obstacle, évidemment, c'est le prix. Et là, bon, la subvention aidant, mais tranquillement, on a dit qu'on va amener, on développe d'autres sortes de batteries en ce moment qu'on pense amener sur le marché dans les 3 prochaines années qui vont coûter moins cher et qui vont emmagasiner encore plus d'énergie.
Okay.
Donc, le jour où on aura aboli ces 3 barrières-là, ces 3 obstacles-là, on va voir probablement là, beaucoup plus de gens adhérer.
Je reviens sur le marché général, si on veut.
Oui.
Quels sont vos coups de cœur cette année?
Il y en a quelques-uns.
Parce qu'habituellement, ils sont variés selon le budget aussi. Là.
Selon le budget aussi, je pense qu'unanimement, comme bien d'autres, j'ai assisté au lancement de la nouvelle Corvette, pour parler d'une voiture sport, un peu d'exception, mais qui reste à un prix réaliste considérant tout ce qu'on a. Qui vient pour la première fois avec un moteur central. Ça a été un coup de cœur. C'était le 18 juillet, là, c'est tout récent. J'ai beaucoup aimé, j'ai essayé le Kona électrique. On parlait de véhicule électrique, véhicule que j'ai bien aimé, qui a un bel espace, qui est agréable à conduire puis qui est à un prix réaliste pour les performances électriques qu'on obtient avec le véhicule. Nouvelle Corolla. Corolla qui a toujours été une voiture un peu grise, un peu tristounette.
Mais gros vendeur.
Gros vendeur, et là, on lui a ajouté un style qui est sympathique et on conserve toujours le caractère fiable que le véhicule a toujours eu. Donc ça, c'est un modèle très intéressant aussi.
Question, là, c'est un peu général, mais je la pose quand même. Qu'est-ce que je regarde quand je veux acheter une voiture d'occasion? Parce que, ouais. Tu sais, en fait, c'est des auditeurs qui m'écrivaient ça ce matin, en sachant que tu serais là. Parce qu'ils se disent, OK, bon, il y a le look, l'apparence, est-ce que l'auto a été bien entretenu? Puis la question de l'odomètre. Puis comment OK, vas-y, je te laisse aller.
Une voiture d'occasion, c'est plus compliqué à magasiner qu'une voiture neuve parce que c'est une voiture qui a de l'expérience. Et comme n'importe quoi tu achètes qui n'est pas neuf, est-ce que ça a été bien entretenu? Tu parlais de reculage, d'odomètre, c'est un fléau dans le milieu des véhicules d'occasion. Même souvent, il y a des concessionnaires qui vont en acheter sans même le savoir qui a été reculé. On est à ce point-là dans certains cas. Mais moi, je dis toujours aux gens, tentez d'avoir un maximum d'informations. Si vous êtes capable, bon, l'idéal, c'est de connaître le propriétaire. Hein, vous connaissez le propriétaire, membre de famille, un ami ou l'ami d'un ami. Vous savez d'où le véhicule vient, de la manière qui est entretenu. Donc, vous savez exactement ce que vous achetez. Si vous achetez d'un commerçant, bien, les commerçants en aide vont être capables de vous donner un minimum d'informations sur le véhicule. L'historique du véhicule. Par exemple, si vous achetez un véhicule certifié qui est entretenu dans une concession et que le concessionnaire a, par exemple, les factures, dit « Oui, monsieur, madame, moi, j'ai pris ce véhicule-là, je l'ai vendu neuf, puis il est entretenu ici, voici les factures. » Bon, tentez d'avoir de l'information. Si vous n'en avez pas, bien, un petit peu un coup de dé. Une voiture, moi, je dis aux gens, si vous avez moins d'informations, faites-la inspecter. Ça coûte 150-200 $, dépendamment où vous allez aller. Mais un mécanicien d'expérience va être capable de voir si le véhicule a été bien entretenu, si les choses qui avaient dû être faites ont été faites. Et ça va vous donner un meilleur portrait du véhicule. Et vous serez peut-être même en mesure de dire, bon, ben il y a peut-être telle chose qui ont besoin d'être faite et de rajuster le prix d'achat, si besoin est.
Il y a des gens qui me soulignent, je ne sais pas si c'est une tendance récente, là, mais quand tu achètes le véhicule et après ça, on te propose une série de produits, que ce soit pour le revêtement sur les banquettes, là, les sièges, et là, l'espèce de garantie, une forme d'assurance sur les égratignures quand tu vas ramener le véhicule. Bon.
Ça, c'est des véhicules de location.
Ouais.
Et ça, deux choses à ça. D'abord, la vente de véhicules neufs, que ce soit sous forme de location, sous forme d'achat, dans les marques, je dirais, dans les catégories populaires, le profit sur le véhicule est beaucoup plus bas que ce que les gens peuvent s'imaginer. Là. Un concessionnaire qui vend une Toyota Corolla, pour revenir à un exemple qu'on a donné, il ne fait pas 5 000 $ avec la Corolla. Là. C'est beaucoup plus bas que ça. Il va avoir des meilleurs profits sur les voitures de luxe, bien évidemment. Mais ce qu'on tente de faire, c'est que le profit est très bas sur le véhicule comme tel, mais le profit est beaucoup plus haut sur tout ce qu'on va vendre après le véhicule. Donc là, on passe au F&I, le fameux F&I, pour le nommer par son nom anglais, directeur de la commercialisation, qu'on va aller voir, et là, on va nous proposer toutes sortes d'affaires. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, vous êtes libre de prendre ou pas. Il y a des gens qui se sentent
en sécurité,
plus confortables de prendre une garantie prolongée s'il arrive quelque chose. Mais on vous propose, là, c'est un menu, là. Il y en a, il y a pour les fins puis les fous.
Non, non, puis les entretiens, tu payes d'avance.
Oui, c'est ça, absolument. Moi, je dis aux gens, là, le moins possible. Le moins possible. Touchez pas à tout ça. Une voiture neuve, d'abord, n'a pas besoin d'un anti-rouille neuf. Les trois premières années, les voitures, maintenant, sont traitées à l'anti-rouille, à l'usine. Ça, c'est réglé. Vous n'avez pas de besoin de protection pour les tissus, à moins que vous ayez un enfant qui échappe de la crème glacée aux 2 jours en arrière. Là, je veux dire, ça ne salira pas. Garantie prolongée, ça dépend. Vous faites 70 000 km par année, vous avez une garantie de 100 000. Au bout d'un an et demi, vous n'aurez plus de garantie. Bon, ben, ça va peut-être être utile dans votre cas si vous voulez le garder 5-6 ans. Mais évaluez et ne vous laissez pas influencer sur des choses. Si vous dites, là, si vous n'êtes pas sûr, là,
prenez un dos.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Benoît, merci beaucoup. Notre référence, encore une fois, l'annuel de l'automobile 2020, publié aux éditions La Presse. Toujours un plaisir.
Merci, Paul.
À bientôt.
Toujours un plaisir. Bye-bye.
9h33, c'est une courte pause, puis je reviens après avec le sujet de Tribune téléphonique.